Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des armes françaises sont bien utilisées dans la guerre au Yémen en ce moment. Paris affirme le contraire, mais nous avons pu lire un document de la direction du renseignement militaire qui l'atteste. Explication et preuve dans un instant.
Nous évoquerons ensuite les mesures fiscales qui pourraient être annoncées ce soir par Emmanuel Macron. Le chef de l'État prendra la parole à 20h, un mois après la fin du grand débat national.
Le syndicat Sud en Seine-Saint-Denis veut donner des outils pour lutter contre le racisme à l'école. Il organise un stage en ce début de semaine. Une initiative qui n'est pas du goût du ministère de l'Éducation, vous l'entendrez.
Et puis dans ce journal, encore zoom sur l'amitié entre le président égyptien et le maréchal Haftar de Libye. Les deux hommes se sont vus hier au Caire, en Libye. L'offensive contre Tripoli a déjà fait 121 morts en 10 jours.
Et puis dans quel état d'esprit se trouve Erol Underoğlu, représentant de Reporters sans frontières en Turquie? Il risque de la prison ferme pour avoir défendu un média kurde. Nous l'avons rencontré. Des associations, des ONG alertent depuis plusieurs années maintenant. Les autorités françaises l'ont toujours nié, mais l'enquête de Radio France ce matin le prouve bel et bien. L'armement français est utilisé dans la guerre au Yémen et l'exécutif le sait. Bonjour Benoît Colombat.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France, vous avez travaillé avec notre partenaire Disclose, un nouveau média d'investigation. Et vous avez eu accès, Benoît, à une note confidentielle du renseignement français.
Oui, il s'agit d'un document confidentiel défense de la direction du renseignement militaire daté du 25 septembre 2018. Un rapport de 15 pages transmis à l'Élysée, à Matignon, au ministère des Armées et aux Affaires étrangères lors d'un conseil de défense qui s'est tenu le 3 octobre 2018. Ce document montre que des armes françaises sont bien utilisées sur terre, sur mer et dans les airs par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à la tête de la coalition militaire au Yémen. Sur la carte de cette guerre, il y a des Charles Clair avec des obus français ou des Mirage 2000 qui participent au bombardement. Certains d'entre eux sont équipés de matériel de guidage laser français qui pourrait être utilisé dans le conflit, dit la note. Il y a aussi 48 canons baptisés César, déployés à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Alors officiellement de manière défensive, mais en réalité, ces canons appuient l'avancée des Saoudiens sur le sol yéménite, précise le renseignement militaire français. Une carte intitulée « Population sous la menace des bombes » montre également que les canons français pointent sur des zones de bombardement de civils. Et si l'on recoupe cette carte avec la liste des victimes civiles, on s'aperçoit que depuis le début de la guerre, 35 civils sont morts dans 52 bombardements à portée de canons français.
Et Benoît, il n'y a pas que les armes, il y a aussi tout ce qui concerne l'aide indirecte à la guerre.
Oui, là encore, le renseignement militaire français établit une liste précise du matériel fourni aux Saoudiens et aux Émiriens. Hélicoptères de combat, transport de troupes, radars ou avions ravitailleurs indispensables aux attaques aériennes. Il y a également des bateaux de fabrication française qui participent au blocus maritime de la coalition. Un blocus qui ralentit ou qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire alors que sur place, la situation est critique.
Et vous êtes par ailleurs en mesure de l'affirmer ce matin, Benoît, les ventes d'armes françaises pendant la guerre, eh bien, elle continue.
Oui, par exemple, les livraisons de canons français à l'Arabie Saoudite. Avec Disclose, nous avons remonté la piste de l'une de ces livraisons. Elle s'est déroulée en septembre dernier. 10 canons César quittent le site de l'entreprise Nexter à Rouen, direction le port du Havre. Les canons sont embarqués dans les cales d'un cargo saoudien et 19 jours plus tard, ils arrivent dans le port de Jeddah en Arabie Saoudite. Il y a enfin ce contrat signé en décembre dernier entre l'Arabie Saoudite et Nexter. Nexter qui appartient à l'État français. Contrat qui prévoit la livraison de blindés dernière génération, mais aussi la livraison de canons. Contactées, les autorités françaises expliquent qu'à leur connaissance, les armes françaises ne sont pas utilisées sur la ligne de front et ne font pas de victimes civiles.
Merci Benoît, Benoît Colombat pour cette enquête complète à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr. Ses proches y voient déjà un tournant. L'acte 2 du quinquennat, sorte de réponse aux gilets jaunes. 5 mois après le début du mouvement, 1 mois après la fin officielle du grand débat national, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à partir de 20h. Selon les mots du communiqué de la présidence, il doit définir lors de cette allocution les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes. Mesures que l'on peut déjà esquisser ce matin, Steven Goyer.
L'une des pistes les plus concrètes concerne la fiscalité, avec du changement à prévoir du côté de l'impôt sur le revenu. De nouvelles tranches pourraient être créées en bas du barème d'imposition, Deux tranches fixées a priori à 5 et 10% d'après les informations recueillies par nos confrères du journal du dimanche. Autre dossier qui pourrait évoluer, les retraites après l'annulation de la hausse de la CSG pour les plus en difficulté. Emmanuel Macron pourrait proposer une réindexation des petites retraites sur l'inflation, mesure qui irait à contre-pied du plafonnement de la hausse des pensions à 0,3% au 1er janvier, quand l'inflation était-elle d'1,8%. Et pour les mères célibataires, l'exécutif réfléchit aussi à créer un système visant à garantir le paiement des pensions alimentaires. Ces réformes ne constituent qu'une partie des pistes envisagées, une partie du volet fiscalité, une réponse à l'exaspération fiscale des Français, d'après les mots utilisés par le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière. Côté institution, plusieurs pistes sont également à l'étude, avec pourquoi pas un passage à 20% de proportionnel pour les prochaines législatives au lieu des 15 envisagées jusque-là. Les ex-présidents, premiers ministres et ministres pourraient, eux, voir leurs avantages supprimés. On parle ici des chauffeurs ou encore des locaux mis à leur disposition à la fin du mandat. Mais si des mesures concrètes sont bien attendues, comme le précise le communiqué de l'Élysée, pas question pour autant de changer de ligne directrice. Le référendum d'initiative citoyenne, tout comme le retour de l'impôt sur la fortune, semble d'ores et déjà écarté.
Première mesure annoncée donc ce soir, mercredi, c'est-à-dire après-demain, Emmanuel Macron expliquera ses choix devant les journalistes lors d'une conférence de presse. Quel changement de méthode dans le billet politique, Stéphane Robert analysera cette séquence. Il nous rejoindra après ce journal dans moins de 10 minutes. Des brigades de sécurité seront déployées à partir d'aujourd'hui en Île-de-France près des lycées. 3 brigades pour le moment, composées chacune de 5 agents. Elles sont financées par la région Île-de-France pour favoriser la médiation, sécuriser les abords des établissements et intervenir en cas de besoin. La sécurité dans et autour des établissements scolaires encore, elle peut être mise en péril par des propos ou des actes racistes. Pour lutter contre le racisme au sein de l'institution scolaire, le syndicat Sud Éducation 93 en Seine-Saint-Denis propose aujourd'hui et demain un stage destiné à la communauté éducative. Une réponse, selon le syndicat, à plusieurs actualités stigmatisantes. Antoine Maret.
Des frais d'inscription qui augmentent pour les étudiants étrangers, des programmes ethnocentrés au lycée, une répression policière qui vise les élèves des quartiers populaires. Pour Sud Éducation 93, le constat s'impose. Les populations non blanches subissent le racisme au sein de l'institution scolaire et dans son prolongement. Le syndicat propose donc ce stage de 2 jours qui s'adresse aux enseignants, aux élèves et parents d'élèves et au personnel. Il y sera notamment question du traitement de la question coloniale et de l'islam par les manuels scolaires, de la carrière des personnels dits racisés, c'est-à-dire non blancs, de l'orientation des élèves racisés ou encore de l'accueil des parents racisés. Une dizaine d'ateliers vont compléter des réunions et notamment un atelier interdit aux personnes blanches. Au sein du ministère de l'Éducation nationale, on dénonce cette initiative qu'on estime contraire aux valeurs de l'école républicaine. En décembre 2017, un premier stage de ce type, évoquant notamment un racisme d'État, avait suscité la polémique. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait porté plainte pour diffamation, une plainte classée finalement sans suite.
L'hôpital est malade, il est grand temps de se mettre à son chevet. C'est ce que réclament 8 syndicats de la PHP à Paris qui appellent à la grève illimitée dans les urgences de plusieurs hôpitaux de la capitale pour des meilleures conditions de travail. Les établissements de la Riboisière, la Pitié-Salpêtrière ou encore Saint-Louis sont touchés depuis hier soir. Va-t-on vers une renationalisation d'EDF ? En tout cas, c'est ce que croit savoir ce matin Le Parisien qui décrit une opération pilotée par l'Élysée. L'idée de cette renationalisation
oui,
d'EDF. Cette idée serait, selon l'Élysée, d'isoler le risque financier du nucléaire et surtout de mieux contrôler les tarifs d'électricité.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'offensive du maréchal Haftar en Libye a fait au moins 121 morts.
121 morts et plus de 560 blessés selon les Nations Unies. L'ONU évoque aussi la fuite de plus de 13 600 personnes à cause des combats près de la capitale Tripoli que le maréchal Haftar veut prendre face au gouvernement d'Union Nationale. Hier, après 10 jours d'offensive, Khalifa Haftar était au Caire pour y rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Une amitié qui n'est pas nouvelle, mais qui s'explique à ce moment charnière, Maureen Mercier.
La présidence égyptienne affirme soutenir la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes et les milices afin que la population libyenne obtienne sécurité et stabilité. L'offensive menée par le maréchal Haftar n'est pas directement évoquée, mais le président Sisi n'aura sans doute pas manqué de le féliciter. Si Sisi et Haftar s'entendent si bien, c'est parce que tous deux sont simplement allergiques aux frères musulmans, à l'islam politique plus largement. Sauf que problème, pour les matés, Haftar sympathise avec sans doute bien plus dangereux encore, les réseaux de l'école Madrali d'Arabie Saoudite, des salafistes qui prônent une application sans faille de la charia. Haftar explique pourtant à qui veut l'entendre qu'en Libye, personne sinon lui ne peut lutter aussi bien contre l'islam radical et le terrorisme. Son objectif, s'emparer du pouvoir par la voie militaire, qu'importe les alliances qu'il faut tisser pour ce faire. Le président égyptien, lui, souhaite une Libye stable aussi pour sa propre sécurité. Les deux pays partagent plus de 1000 km de frontières, mais aussi pour pouvoir bénéficier de son pétrole à des prix défiant toute concurrence. Pour atteindre ses propres objectifs, le président égyptien semble prêt à fermer les yeux sur quelques contradictions.
Des milliers de manifestants à Khartoum campent toujours devant le quartier général de l'armée soudanaise. Ils exigent un transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil. Les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière après la destitution du président Omar el-Béchir, les militaires, eux, ont écarté hier le chef du renseignement au Soudan, écarté aussi le chargé d'affaires à Washington. Le verdict pourrait tomber ce lundi dans le procès du représentant de Reporters sans frontières en Turquie. Erol Onderoğlu et deux autres défenseurs des droits humains sont poursuivis pour propagande terroriste, apologie d'un crime et incitation à commettre un crime. Le crime en question est d'avoir pris part en mai 2016 à une campagne de solidarité avec un quotidien kurde. Il risque plusieurs années de prison. À Istanbul, notre correspondante Anne Andlauer a rencontré Erol Onderoğlu à quelques heures du verdict.
Depuis presque 3 ans, il rechignait à évoquer son procès par crainte d'attirer l'attention sur son cas personnel. Désormais, le journaliste Erol Onderoğlu, représentant de RSF en Turquie depuis 23 ans, se dit pressé d'en finir.
Non seulement ça représentait un des dossiers parmi les centaines que je suivais et ça me gênait pas mal, mais il est inévitable que le dossier s'approche de vous au fur et à mesure que vous vous approchez du verdict parce que vous reprenez conscience du fait qu'il y a des conséquences familiale, professionnelle, peut-être des mois enfermés derrière 4 murs, etc.
Erol Onderoğlu risque en réalité jusqu'à 7 ans et demi de prison pour 3 articles publiés dans le quotidien kurde Özgür Gündem, interdit en août 2016. Lui qui, rapport après rapport, fait état de la disparition de la liberté de la presse et de l'indépendance judiciaire en Turquie, ne se fait aucune illusion. Son pays semblait pourtant promis un tout autre avenir.
Un pays si dynamique pour un rapprochement avec l'Union européenne, etc., se retrouve désormais à un nettoyage idéologique. La société civile, les journalistes critiques, eux, prennent leur part de cette répression. Bon, ce qui nous reste, c'est de faire valoir nos droits, c'est de faire valoir les valeurs. Et on paiera s'il le faut, bien évidemment.
Dans le dernier classement de la liberté de la presse publié par RSF, la Turquie occupe la 157e place sur 180 pays. Une chute de 60 places par rapport à 2005, année où l'Union européenne a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec Ankara.
Le Parti social-démocrate remporte d'une très courte tête les élections législatives en Finlande avec 17,7% des voix. D'une courte tête car face aux sociaux-démocrates, il y avait le Parti eurosceptique des vrais Finlandais qui arrive deuxième et n'a que 0,2 points de moins. Il double son nombre de députés à 1 mois et demi des élections européennes. L'Europe qui inonde l'Afrique de lait en poudre. Depuis 2015 et la fin des quotas laitiers, il y a en effet une surproduction. Et cela n'arrange pas du tout les producteurs d'Afrique de l'Ouest, notamment. Ils sont venus à Bruxelles pour plaider leur cause. Notre correspondante Johanna Hochstein a notamment rencontré une représentante du Burkina Faso.
Mariama Diko gère une petite exploitation laitière à Dori. Chaque jour, quelques 800 litres de lait y sont produits et transformés. Mais elle se plaint d'une concurrence déloyale venue d'Europe.
Le lait qui arrive de l'Europe au Burkina est moins cher. Le litre de lait emporté ne dépasse pas les 200 francs. Et nous, on est à 400 francs avec le lait local.
Un lait importé vendu 2 fois moins cher donc que le lait local. En fait, ce lait n'est autre que de la poudre de lait écrémée réengraissée à l'huile de palme. Benoît de Wagener d'Oxfam Belgique.
Aujourd'hui, avec les cours du beurre qui sont très élevés, les industriels européens vendent le beurre à un prix intéressant sur les marchés et donc se retrouvent avec de la poudre de lait écrémée qui a très peu de valeur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent de la matière grasse végétale, principalement de l'huile de palme, pour retrouver un mélange entre de la poudre de lait écrémée et de l'huile de palme de la matière grasse végétale. Et ce mélange, ils l'exportent sur les marchés africains sous forme de poudre.
Une poudre de lait européenne qui inonde les marchés locaux. Dans la ville de Bamako, au Mali par exemple, 90% du lait consommé vient de poudre de lait étrangère, européenne principalement. La responsable de la laiterie appelle donc l'Europe à soutenir la production locale.
Dès que moi je suis descendue de l'aéroport, j'ai vu des femmes africaines qui mendiaient. Si ils ont de l'emploi chez nous en Afrique, ils ne vont pas venir pour mendier en Europe.
Et l'inquiétude de ces producteurs africains est d'autant plus grande que les exportations européennes de poudre de lait ont doublé en 10 ans, une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années.
La météo s'annonce plutôt lumineuse sur l'ensemble de l'Hexagone ce lundi, même si une perturbation va arriver cet après-midi par l'ouest, apportant du gris et de la pluie sur la Bretagne et la Normandie notamment. Comptez ce matin 6 degrés à Besançon, 8 à Lille, 9 degrés à Lyon, 10 degrés en région parisienne et à Rennes, 12 à Bordeaux, 16 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal, il est 8h16 sur France Culture. Dans environ une demi-heure, Games of Thrones, la série, sera à l'honneur dans le billet culturel de Mathilde Serrel. Il y aura des noms propres dans la conclusion d'Aurélien Bélanger. Puis on évoquera les fractures territoriales à l'heure où il est question d'en terminer avec le grand débat. Emmanuel Macron va faire des propositions ce soir et nous serons en compagnie du photographe Vincent Jarousseau et de l'historien Jean-Pierre Rioux. Et justement, dans votre billet politique, Stéphane Robert, il est question d'Emmanuel Macron.
Oui, nous nous demanderons si on est à un tournant du quinquennat.